Biston claque, biston claque, biston claque. Nous aimons la chanson française. Biston claque, mais nous détestons les fadaises. Qu'elles soient françaises ou javanaises, la balourdise, ça nous défrise. Tout ce qui est humain est nôtre, disait le coin, se mêle l'apôtre. Cette phrase est notre devise, notre devise. Biston claque, biston claque, biston claque. D'accord pour les chanteurs, poètes. Biston claque, ni dans le Rhône ou à Perpète. Suffit qu'ils mettent nos cœurs en fête. La poésie n'a pas de patrie. Tout ce qui est humain est nôtre, disait le coin, ce bel apôtre. Voilà notre philosophie, philosophie. Biston claque, biston claque, biston claque, biston claque, biston claque, biston claque.
Bonsoir, je vous propose ce jour la première d'une série de deux émissions réalisées avec la collaboration du comité de Vaux-en-Velin de l'Association des anciens combattants et amis de la Résistance, ANACRE. Elles sont consacrées à un entretien avec Marcel Roche, résistant vaudais. Marcel Roche, né en 1922, a presque 87 ans au moment de la réalisation de cet entretien en janvier 2009. Il a donc traversé presque tout le XXe siècle. Il a connu 36 et est devenu très tôt militant des jeunesses communistes. Il a abordé le début de la guerre dans un état d'esprit très anti-nazi et anti-pétainiste. Et il allait payer très cher cet engagement courageux qui l'a conduit en camp de concentration à Dachau. C'est donc son parcours depuis cette époque jusqu'à la fin de la guerre essentiellement que nous allons évoquer au fil de ces deux émissions. Aujourd'hui, notre entretien nous conduira jusqu'en septembre 1943, période à laquelle, d'emprisonné à Saint-Étienne, il fut transféré à la centrale d'Est dans le Lot-et-Garonne. Je remercie chaleureusement Marcel Roche et l'ANACRE d'avoir bien voulu accorder à Radio Canu, 102.2 MHz, la plus rebelle des radios, cet entretien exclusif. Je vous propose de le retrouver. Marcel Roche, bonjour. Je vous remercie de me recevoir pour Radio Canu, pour un entretien qui vous permettra de nous présenter votre parcours à travers la guerre de 40, mais on va peut-être commencer plus tôt, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées avant pour vous, bien sûr. Vous êtes né le 27 février 1922, à Lyon, et dans une famille qui vous prédestinait à avoir un parcours engagé.
Oui, exactement. Exactement.
Qu'est-ce qu'on peut dire de votre père ?
Ben, mon père, c'était un ancien produit de la guerre, 14. Bon, j'étais un militant syndicaliste, et bon, tous les mouvements qui se sont produits avant 36, j'y ai participé quand même un peu. Parce que je me rappelle que mon père, il me disait toujours, le 1er mai, c'est sacré, et je n'allais pas à l'école le 1er mai. Et quand il y avait des manifestations, je partais avec lui.
À l'époque,
c'était avant.
C'était
pas un jour férié. Puis bon, c'était un jour comme un autre. Hein. Mais mon père, j'étais pas question que j'allais à l'école.
Et lui ne travaillait pas ce jour.
Non. Il n'est pas payé. On allait manifester. Et je me rappelle, je ne sais plus bien la date. Mais je me rappelle qu'il y avait eu une manifestation qui se déroulait cours Lafayette, vers l'Union départementale des syndicats. Et on était chargé par la police et on était obligé de prendre nos jambes à nos coups et de filer.
Donc vous aviez une dizaine d'années à ce moment-là.
Oui, bien sûr. Mais j'étais... C'était pas question que j'aille à l'école le 1er mai. Alors, évidemment, j'avais toujours un mot, une excuse. Enfin, bon. Et moi, Ça m'a marqué, ça. Ça m'a marqué.
Copains, regarde les rues, les flicards et les roussins montrent leur gueule pourrie. Le brut est assassin. Racaille, par ça serais-je abîmé. Un 1er mai sans flicaille, ça n'est pas un 1er mai. Un 1er mai sans flicaille, ça n'est pas un 1er mai. Copain voit malgré la rousse les bourgeois gras et pansus. Les richards ont eu la frousse dès qu'ils nous ont aperçus. Vipère, tremblez devant le primé. Mais sans colère, ça n'est pas un 1er mai. Un 1er mai sans colère, ça n'est pas un 1er mai. Copain, car à la faconde, des grands ténors endormeurs, la haine seule est féconde, la haine des affameurs. Récolte, bourgeois, ce que tu as semé. Un 1er mai sans révolte, ça n'est pas un 1er mai. Un 1er mai sans révolte, ce n'est pas un 1er mai. Copain, pense à la vengeance quand nous serons les plus forts. Nous détruirons cette engeance au pied de ces coffres forts. Charogne, quand nous t'aurons supprimé, nous fêterons sans vergogne, bourgeois, notre 1er mai. Nous fêterons sans vergogne, bourgeois, notre 1er mai.
Votre école même... primaire, c'était laquelle, vous étiez où?
Comment?
Votre école primaire, c'était laquelle?
Au Japonais. Au Japonais, avant, c'était presque de la bourse du travail, hein. Mmh. Le Japonais, Place Guichard, voilà.
Ouais. Et vous avez des bons souvenirs de cette école, des instituteurs
Oui. Bon, vous savez, à l'époque. J'étais pas tellement chaud, hein, non.
J'en avais un.
Le dernier professeur que j'ai eu à cette école, c'était un ancien militaire. Et il avait fait l'Algérie et il nous parlait souvent de Colomb Béchard. Et quand il s'agissait de. Quand il s'est agi de passer le certificat d'études, on n'a pas voulu présenter Roche. Je n'étais pas présenté par l'instituteur. Mon père dit, bon, il avait des connaissances, il dit, il n'y a pas de problème, vous le présentez comme candidat libre. Et j'ai réussi mon certificat avec, sans mention, mais enfin bon, j'ai réussi le certificat.
Pourquoi il ne voulait pas vous présenter?
Et, il y avait peut-être une rancune, je ne sais pas, j'étais pas brillant. Enfin, bon, je suivais les classes comme tout le monde. Il y a eu une histoire politique là-dessus.
Oui, c'est
hein.
Ça. Vous bon, étiez un fils de socialiste, c'était connu, quoi.
Ben, oui, et bon, depuis certaines années, je n'allais pas à l'école le 1er mai. Mm. Bon, ben, à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup qui n'allaient pas à l'école le 1er mai. Mm-hmm. Bon, ça, c'est la faute à mon père. Hein. Bon.
Vous ne lui en voulez pas.
Ben non, pas du tout. Parce que je suis bien content d'avoir suivi ce parcours-là parce que j'ai appris beaucoup de choses.
Et arrive 1936. Là, ouais. Vous aviez 14 ans.
Mais,
et vous vous en souvenez très bien.
Ah, ben, oui, bien sûr. J'allais porter le ravitaillement à mon père qui travaillait à ce moment-là à l'hôtel. Et je partais en vélo, j'allais jusqu'à Perrache, je portais son casse-croûte.
Le TL, c'était quoi?
C'était les TCL.
Ah, les transports.
Voilà.
Mmh.
Et le dépôt des trams, à ce moment-là, il se trouvait à Perrache. Vers la rue Bichat, par là. Mmh. Et je la ravitaillais, là.
Et les manifestations aussi, vous avez participé?
Bien sûr. J'étais monté sur le tapis et j'ai suivi.
Peuple souverain, quand sur les Bastilles, demain le soleil mettra sa clarté, viens clamer au ciel que tu veux qu'il brille pour le pain, la paix et la liberté. Quand le blé français pourrit dans les granges, pourquoi le chômeur n'a-t-il pas de pain? Lorsque l'on détruit le fruit des vendanges, pourquoi le chômeur n'a-t-il pas de vin? Peuple, quand la faim creuse ta poitrine et qu'à tes appels le puissant dit non, pourquoi permets-tu que dans les usines des maîtres ventrus forgent des canons? Quand l'enfant du pauvre est sans nourriture, pourquoi les pourceaux ont-ils trop de lait? Quand le travailleur n'a qu'une masure, pourquoi la faveur a-t-il des palais? Peuple souverain, quand sur les Bastilles demain le soleil mettra sa clarté, viens clamer au ciel que tu veux qu'il brille pour le pain, la paix et la liberté.
Et à la suite de ça, en 1937, j'ai adhéré aux jeunesses communistes. J'ai suivi le parcours des jeunesses communistes jusqu'au 26 septembre 1939, où on a interdit le Parti communiste et ses organisations.
Votre père était au Parti communiste aussi?
Non, c'était un syndicaliste. CGT, oui, bien sûr. CGT, CGTU, je ne sais pas, il y a eu une histoire là, à un moment donné.
Oui,
bon.
Voilà. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez adhéré si jeune aux jeunesses communistes?
Porté par cet élan du Front populaire. Puis, bon, ici, la non-intervention en Espagne, il y avait l'Espagne républicaine, enfin bon.
Oui, la guerre d'Espagne était.
Voilà.
C'est la période, quoi. Et vous avez des souvenirs de ce que vous avez fait au moment de la guerre d'Espagne,
par exemple? Oui. On a eu un souvenir que j'appartenais à un groupe des jeunesses communistes, un cercle des jeunesses communistes, qui se trouvait dans le quartier de Lavoisier. Lavoisier, dans le 3e arrondissement, la place Guichard. Enfin, j'étais dans ce machin. Et on a organisé des collectes, et ravitaillement. Et on avait la chance d'avoir rue du Lac, je ne me rappelle plus le nom du médecin, et il nous fournissait des échantillons de médicaments qu'on transmettait pour l'Espagne républicaine. Et nous avions, sur le plan Lyon, on était arrivés presque en tête, et à ce moment-là, on a eu droit à un drapeau espagnol, comme récompense. Donc, alors on collectait dans les maisons, on collectait chez les commerçants, on collectait. Thank you.
Et à cette époque-là, vous travailliez déjà, c'était fini l'école, là, vous
aviez... Oui, bien sûr. J'ai travaillé, j'ai commencé à travailler dans un garage qui se situait rue des Rancis. Rue Neuse de la Villardière, je crois, dans le quartier de Lavoisier. Et là, j'étais dans les bureaux. Ça ne me plaisait pas tellement. Enfin bon, j'ai débuté comme ça, quoi. Et puis, les événements de 36 ont fait qu'on a embauché davantage de personnel. Et j'avais un camarade qui était à l'école avec moi, qui travaillait dans une imprimerie. Et il m'a dit... j'embauche là-bas, il faut que tu te présentes. Bon. Alors, je suis rentré là-bas dans l'imprimerie, je connaissais pas tout l'imprimerie, mais enfin bon, il fallait que je travaille. C'était pas facile déjà à cette époque de classer les jeunes.
Hein. Ouais.
Alors je suis rentré dans cette imprimerie, c'était une imprimerie Giraud-Rivoire qui se trouvait rue Nicolas. Et là, je suis rentré, je crois, en février 37. En février 37, j'ai fait l'apprentissage, un conducteur typographe.
C'est-à-dire, vous gériez une machine que...
Voilà. On nous amenait la forme, les caractères composés, et nous, on mettait sur la machine et on faisait un tirage. J'ai appris ce métier jusque... Ben, jusqu'à temps que je sois resté. Hein.
Vous allez y rester jusqu'en...
Ah oui, en 41, quand j'ai été arrêté le 19 août, je travaillais chez Giraud-Rivoire.
On n'a pas évoqué, vous aviez des frères et sœurs aussi dans
votre
famille ?
Oui, ils sont plus jeunes que moi. Hein. J'ai ma sœur qui a 8 ans de moins que moi, et mon frère en a encore... On a 16 ans de différence.
Ah oui.
Donc ça fait déjà une autre génération. Avec ma soeur, c'est plus problème. Enfin, avec mon autre frère, c'est que 16 ans, ça commence à compter. Hein. Alors, quand j'étais arrêté, il avait 2 ans. Hein, je suis revenu. Il en a 20.
Bon. Donc 1939, la drôle de guerre, et puis l'interdiction du Parti communiste.
Voilà.
Donc, qu'est-ce que vous avez fait, vous, à ce moment-là ?
Eh bien. Il y a eu pas mal de dirigeants communistes qui ont été arrêtés à cette époque-là. Et puis, on s'est regroupés. Et le cercle que j'appartenais, qui était à Lavoisier, on était, mettons, une quinzaine d'adhérents. Et on s'est retrouvés plus que deux.
Ah oui.
Pour continuer.
Et vous avez entamé une action déjà clandestine par rapport...
Bien sûr, l'action clandestine, à l'époque, c'était la diffusion des tracts. Et encore fallait-il avoir des tracts à distribuer, mais il y avait aussi des inscriptions sur les murs. Hein. Un bas Pétain, un bas Laval...
C'était l'essentiel de vos actions à ce moment-là.
Oui, il n'y avait rien. C'était vraiment le début, hein. On n'appelait pas ça la résistance. Le mot résistance est venu après.
Comment vous avez ressenti l'accord Staline Comment vous l'avez vécu, vous ?
Très mal, hein, très mal. Mais enfin, bon, c'était pour nous qui avions signé cet accord.
Parce qu'on reproche souvent aux communistes, mais
des
gens comme vous, votre arrestation en est la preuve, n'ont pas attendu que le pacte germano-soviétique soit dénoncé pour lutter les nazis.
On était mi-clandestins, quoi. On faisait des distributions de tracts, des distributions de murs, mais c'est tout, hein. On avait des liaisons à l'échelle supérieure, hein. On avait quand même des dirigeants qui
donnaient des directives.
Voilà. Oui, parce que on était après cette période-là, on était ce qu'on appelle les groupes de trois. On était trois. Travaillons ensemble. On ne devait pas se connaître. on ne devait pas savoir mon nom, mais enfin bon, moi je me suis...
Au niveau du groupe de Troyes, vous ne deviez pas vous connaître.
Ben,
oui, c'était vraiment la clandestinité.
Oui, bien sûr. Et on a déjà fait, moi, on a fait, j'ai fait une entorse à ce règlement, parce que on s'est retrouvé, moi je suis resté en contact avec un camarade qui était avec moi au sein de jeunesse communiste. On n'a pas voulu séparer. On a déjà fait une petite entorse, mais enfin bon, à l'époque ça se bouclait pas.
Et votre arrestation, alors sur une dénonciation, je crois.
Oui, sûrement, parce que on ne nous a pas racheté, il y a un gosse qui a été parachuté, on ne sait pas comment, ni pourquoi, ni comment. C'est lui qui nous a porté des tracts. Et le jour où, le 19 août, on avait rendez-vous à Lavoisier, chez mon camarade, là, pointu. Et celui qui nous a porté les tracts, il est venu chez Quinty. Donc, c'était déjà pas tellement. Mmh. Enfin bon, à l'époque, on avait 19 ans, on croyait peut-être au Père Noël, enfin bon, on n'était pas encore bien ancrés. Et ça faisait 2-3 fois qu'on le voyait, et quand on le voyait, il nous donnait un paquet de tracts. Un paquet de tracts, pour 3, bon. Et ce jour-là, après, par hasard, comme ça, on avait chacun notre paquet de tracts. Pourquoi, on ne sait pas. On a pris chacun un paquet de tracts. Et on est remonté de Lavoisier, on a remonté l'avenue Lacassagne en direction de la place Roger de Lille. Tranquille, il faisait nuit, enfin, c'était 10h du soir, il n'y avait pas d'éclairage, rien du tout. Et puis, à un moment donné, quand on arrive presque vers la place de Roger de Lille, il nous offre une cigarette. Mais une cigarette. Alors, on allume la cigarette. Mais c'était sûrement, c'était un signal. Parce que on s'est séparés. Nous sommes partis en direction de Sanssouci, vers le passage au niveau de Sanssouci, et quand on est arrivé devant les grandes caves qui se trouvent sur la place Roger de Lille, un coup de sifflet dans la nuit, on a compris tout de suite. Hein. Alors, on a cherché, pour ma part, remonter sur la voie ferrée. Prendre la voie ferrée, et puis bon, ben, on savait que la voie ferrée, il ne pouvait pas venir en voiture. Hein. Mmh. Mais ben, malheureusement, on a été cerné devant, derrière, sur les côtés, et on y était arrêté. Chose encore bizarre, c'est qu'on nous dit, mais ils vont bien nous dire qui c'est l'autre qui s'est enfui. Donc, celui-là, on n'a pas couru après. Bon, on est tombé dans un traquenard.
C'est quelqu'un qui avait été infiltré dans les régions.
Oui, oui. Et on n'a jamais. Et ce gars-là, je le revois. Un blond, les cheveux bouclés. Il soi-disant de Nice. Mais bon.
Oui, vous étiez obligé de faire confiance.
Mais oui.
Hein. Au réseau.
Parce que, bon, il faut dire que en 1941, il y a eu des arrestations, mais en masse. Hein. Ça a été une année noire, ça, pour le Parti communiste. Hein.
Et à partir de là, ils vont vous emprisonner à Saint-Étienne ?
Oui, mais je vais d'abord à Saint-Paul, à Lyon. Et puis, arrêté le 19 août 1941, Pétain a signé un décret le 14 août, la loi du 14 août 1941, qui envoie les communistes devant les sections spéciales, les tribunaux militaires. Donc là, on est jugé à huis clos à Montluc, au tribunal militaire de Montluc. Et pour ce fait, on est transféré à Montluc. Mais à Montluc, à cette époque-là, c'était gardé par les Français. Hein. Les Allemands, ils n'étaient pas dans la prison. Hein. Donc on avait, relativement à ce qui se passait à Saint-Paul, on mangeait mieux. On mangeait mieux, c'était une prison militaire, il y avait quand même du ravitaillement.
Et vous êtes jugé dans des conditions normales, non ? Pas d'avocat, pas de...
Si, mais un avocat d'office. Et le minimum de la peine pour ces tribunaux-là, c'est 5 ans de travaux forcés. Bon. Par Cerda, automatiquement, vous arrivez, vous avez 5 ans de travaux forcés sous le dos. Bon, c'est ce qu'on a pris.
Les trois.
50 ans avant vous. Alors, on est resté quelque temps à Montluc, et puis on est parti.
Le motif de votre condamnation, c'était quoi ? C'était les tracts ou c'était l'appartenance au Parti communiste ?
C'était pas n'importe quoi. Hein. Voilà le.
Donc vous avez le jugement.
Le jugement, enfin, l'acte d'accusation.
L'acte d'accusation. C'était collectif, il était établi aux trois noms, quoi.
Ah oui, bien sûr.
Pointy, Roche-Marcel, c'est vous, et Paul Vital.
Voilà. Et on habitait, Paul Vital, il habitait rue du Dauphiné, Pointy, il habitait à Lavoisier. Ouais. Et moi, j'habitais rue d'Ambre.
Qu'on vous reprochait, c'était de propager les ordres émanant au relevant de la Troisième Internationale communiste, l'organisme contrôlé, en fait, par cette Troisième Internationale.
Mmh. J'ai atteint à la sûreté des États, et bon, j'ai vu la loi du 14 août 1941, signée par Pétain. Et suite de ça, bon, on reste quelques temps à Montluc, et puis on transfère à quatre personnes à Saint-Étienne. À Saint-Étienne, on arrive, on nous met chacun dans une cellule, et... On dit vers 41, 42, il a dit c'est terrible, bon, tout seul dans une cellule. La cellule, il y avait un lit, une paillasse, une couverture, c'est tout. Nu, la cellule nue, comme ça. Et on dormait, moi je dormais tout habillé, parce que bon, au deuxième étage, il y a pas grand Saint-Étienne, le climat stéphanois, c'est pas...
C'était pas chauffé du tout ?
Non. Alors bon, et pas de bouquin, rien, pas de quoi écrire, pas de... Rien. Et bon, à 19 ans, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je suis marché en rond, en large, en travers, des heures et des heures. On n'avait rien bouffé. L'ordinaire de la prison, c'était une soupe le matin, une soupe le soir, mais c'était une soupe clairette. Hein. À ce moment-là, il y avait des topinambours, il y avait de l'outabaga, il y avait des pétras à vache, bon, voilà.
Dans une sombre prison, aux murailles noircies, de jeunes prisonniers lentement tournent en rond. Ils ont la tête basse sous l'habit d'infamie, numéro sur le bras tout comme des forçats. Et moi je me demande ce qu'ils ont bien pu faire. Sont-ce des assassins, des bandits, des vauriens, de ceux qui n'hésitent pas pour vivre à leur manière, à tuer pour voler d'honnêtes ouvriers. J'interroge l'un d'eux, un gars au regard fier. Il me dit si je suis ici, c'est pour avoir osé cracher à la sale gueule d'un gradé militaire. Pour ce geste insolent, ils m'ont collé 5 ans. Je resterai ici le temps qui me reste à faire, plus maltraité qu'un chien par cette bande vaurien, ces maudits geôliers, bien payés pour nous faire souffrir et torturer. C'est là leur seul métier. Biribi est tombé sous les coups d'Albert Londres. Le bagne a changé de nom, il n'a pas disparu, car il est remplacé par une maison centrale dont le nom est Clairvaux, ce qui veut dire tombeau. Si Albert Londres pouvait visiter les centrales, il écrirait sûrement plus de 200 romans qui ouvriraient peut-être les yeux fermés de la France qui ne s'inquiète guère de ses bagnes militaires. Je termine mon récit, les yeux remplis de larmes, en songeant aux copains qui sont restés là-haut. Je reverrai toujours, comme dans un rêve infâme, la salle de discipline, le prétoire, le cachot. Et si la République désire qu'on la défende, nous ne demandons pas mieux, mais à une condition, c'est que l'on ne voit plus des garçons de 20 ans mourir dans les batafs, victimes du régiment.
Des promenades quand même, vous retrouvez promenades,
vos... promenades un quart d'heure par jour. Alors, on était isolés, chaque cellule avait un bonhomme. Et on sortait à la queue lulu, un quart d'heure, dans des petits cours triangulaires. Là,
bon, et sans... promenade solitaire, donc. Vous ne vous retrouviez pas à plusieurs.
Ah, non, non. Et bon, dans la file, on cherchait à voir s'il n'y avait pas quelqu'un qui avait une autre gueule, quoi. On n'était pas du droit commun, hein. Et on cherchait justement à avoir
contact.
À avoir un contact.
Et ce régime-là, il a duré longtemps ?
Ben, jusqu'en début 42. Comment ? À l'intérieur de la prison. Il y avait quand même des gens qui avaient été arrêtés en 39, 40. Et un jour, j'ai eu les visites à travers le guichet, en grosse barbure. Et c'était le bibliothécaire. Et le bibliothécaire ne faisait pas que de distribuer des livres. Il regroupait les arrivants, savoir qui c'était, pourquoi ils étaient là. Ce gars-là, c'était Antoine Dutrieux. Il avait été conseiller municipal dans Camille Joly, je sais pas. Et il avait réussi à avoir ce poste-là. Mais ce poste, c'était pour l'organisation clandestine de la prison. Alors, maintenant, il m'a posé des questions, je lui ai répondu, et bon, il me dit, petit, je reviendrai. J'ai entendu quelque chose qui, à mes oreilles, sonnait, quoi. Et puis bon, ça va rester combien, 15 jours, 3 semaines, un mois, je sais pas. Puis un beau jour, il revient. Et il me donne un bouquin. Robinson Crusoe, oui. Et puis à l'intérieur de ce bouquin, plié dans un papier journal, il y avait une sardine salée. Et il m'a dit, ça, c'est la solidarité. J'ai dit, oui, c'est formidable. Bon, il y a déjà une organisation clandestine à l'intérieur de la prison. Alors lui, il faisait le rapprochement et il regroupait les gens. Et puis, il nous disait, après, quelqu'un après, il disait, mais il faut écrire à la circonscription pénitentiaire de Lyon pour réclamer des colis, pour réclamer que nous soyons ensemble. Et au bout d'un certain temps, à force de recevoir, on était 80 là-bas, 80 communistes, ils recevaient 80 lettres dans le même sens, à une certaine distance, hein, parce que bon, les moyens de communication à l'imprégnation, c'est pas toujours facile. Enfin, ils recevaient 80 lettres, et à force de revendications, on a eu le recolis. Et puis, en février ou mars 42, on nous a rassemblés. On est tous descendus au rez-de-chaussée. Et on occupait un certain nombre de cellules. Et à cette époque-là, on avait une classification alimentaire, c'était les J3. Les J3, ils avaient droit à une tablette de chocolat par mois. Bon. Et on s'est trouvé 8. 8 J3 qui avaient moins de 21 ans. Ils ont fait deux cellules de 4. Oui. Les autres, ils étaient par 3. Mais nous, on était deux cellules de 4. Et moi, je suis tombé en cellule avec un grenoblois et deux marignanais. Et on a vécu comme ça un certain temps.
Avant ce regroupement, vous receviez des visites quand même de votre famille
Oui, oui, mais les moyens de locomotion, c'était pas toujours facile. Et puis, bon, ben, il y avait des fois que je venais pour rien du tout parce que les palmoires étaient supprimées. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas.
C'est toujours pareil aujourd'hui, d'ailleurs.
Ah, oui, bien sûr. Alors, bon, on a eu une chance, c'est de tomber à 4, d'être des jeunes. Et puis, bon, il faut dire que l'organisation à l'intérieur de la prison était aussi sensationnelle, parce que avec nous, il y avait des instituteurs, il y avait des gens qui étaient bien plus vieux que nous et qui avaient une connaissance plus approfondie de l'histoire de la République. Et ils nous ont fait travailler.
Ça, c'est au-delà des 4 personnes que vous étiez dans la cellule. Il y avait des moments où vous étiez...
Ah non. On était toujours 4. Mais on était toujours 4. Et on devait sortir en promenade, ce qu'on appelle la promenade. On devait être 4. Mais il se passait toujours un espèce de méli-mélo, si bien qu'on n'était pas avec les mêmes. On avait d'autres gens à côtoyer. Oui, alors, ce mouvement de méli-mélo, on changeait de partenaire, mais on était toujours, on restait 4, on manquait 4 dans la... Mais comment on sortait tous les jours? Un quart d'heure, on n'était jamais avec les mêmes. Alors, à travers ça, on nous donnait des devoirs à faire. On a écrit, je ne sais pas...
Donc là, vous aviez récupéré du papier.
Là, oui, mais entre-temps, on avait obtenu des colis, on avait obtenu de quoi écrire, parce que... C'est primordial de pouvoir écrire, parce que quand on était encore en haut, là-haut, au deuxième étage, on avait droit à écrire une fois tous les 15 jours, je crois, mais on nous donnait du papier, 15 lignes, pas plus, hein, 15 lignes. On vous donnait le porte-plume et l'encre, et quand c'était fini, paf, on ramassait tout. Ça fait qu'on se retrouvait tout nu. On n'avait rien dans la cellule. Et on écrivait nos parents, puis après c'était fini. Alors, on avait eu, à force de la réclamation, on avait quand même réussi à obtenir certaines choses. Donc, l'achat des bouquins, de quoi écrire, comme ça.
Ça allait durer des mois, tout ça. Comment, quel souvenir, vous ennuyiez, vous,
ah non,
vous
non.
viviez ça?
Mais écoutez, on n'avait pas le temps de s'ennuyer. Le matin, on se levait, je ne sais pas quelle heure. Bon, première chose, la toilette et la gym. Pourquoi la gym? Parce que on pensait toujours à pouvoir foutre le camp pour, et reprendre le combat. Bon. Alors, la gym, et puis après, une fois qu'on avait avalé la tasse de café, on se mettait au boulot.
Instruction, cette noble devise que tout Français répète à l'unisson. Ce mot sacré que l'école redise. Instruction, instruction. La France un jour s'éveillant mutilée se l'avait dit en s'adressant à tous. Partout le sang arrose la vallée. Par ce spectacle, enfants, instruisez-vous. Chacun compris ces sublimes paroles pour éloigner un passé malheureux. De tous les points surgissent des écoles et l'avenir apparaît radieux. Instruction, cette noble devise que tout Français répète à l'unisson. Ce mot sacré que l'école redise. Instruction, instruction. Instruisons-nous que ce soit notre gloire. Sous ton égide, ô sainte liberté. Bravant l'astuce, interrogeons l'histoire. Cherchons partout lumière et vérité. Plus de combats, plus de guerres civiles. Le despotisme a fait place au progrès. Le peuple instruit et des champs et des villes en souverain a rendu ses arrêts. Instruction, cette noble devise que tout Français répète à l'unisson. Ce mot sacré que l'école redise. Instruction, instruction. Par ce levier, tout homme devient libre, l'enfant grandit et devient citoyen. Par ce levier, ce jeune cœur qui vibre comprend ses droits, les défend au besoin. Le malheureux que l'ignorance aveugle courbe l'échine à la voix du tyran. Et ressemblant à l'animal qui beugle, il porte au cou le sinistre carcan. Instruction, cette noble devise que tout Français répète à l'unisson. Ce mot sacré que l'école redise. Instruction, instruction. Instruction, mère de la science. Répands à flot tes bienfaits généreux. Que devant toi la servile ignorance s'enfuit voyant tes rayons lumineux. Vous partisans d'une marche en arrière, sachez-le bien qu'un peuple instruit est fort. S'il peut parfois s'attarder dans l'ornière, un jour pourtant il touchera au port. Instruction, cette noble devise que tout Français répète à l'unisson. Ce mot sacré que l'école redise. Instruction, instruction.
Ça, c'est des documents écrits en prison, quoi.
Oui, c'était écrit en prison. Donc, il y avait avec nous des professeurs, des gens bien plus qualifiés que nous, qui nous ont fait travailler pendant tout ce temps-là. Là où il y avait la commune. Et ça a été écrit en prison.
Oui, ça pourrait être des cours... du lycée, quoi, de 5e, de 4e, de 3e, c'est... c'est-à-dire...
Et c'est écrit à l'encre, importune, et sur une pile de couverture. Parce que la cellule...
Il n'y a pas de table.
Non, il n'y a pas de table. Il y en avait une petite table, mais bon, sur quatre, on peut pas...
Ouais.
Alors, on pliait les couvertures et on écrivait... On avait deux lits pour quatre. On couchait par terre.
Ah ouais.
On couchait par terre parce que on se réchauffait comme ça. Hein.
Ah ouais.
Alors là, c'est une partie de ce que j'ai été sauvé. Je ne sais pas comment que ça a été sauvé. Je ne sais rien.
Ils vous ont rendu ça quand vous êtes...
Ah ben, c'est-à-dire, c'est mes parents qui ont dû récupérer ça, parce que quand on est parti de Saint-Étienne, on n'avait rien, on a tout laissé là-bas. Hein.
Ouais, même des mathématiques.
Il y a un peu de tout, hein. Il y a un peu de tout, hein.
Donc vous allez rester à Bellevue là jusqu'en 44, non, c'est ça?
Non, c'est en 43. Hein.
43.
Ben, 43.
Ah oui,
et en 43, il y a eu pas mal d'évasions dans toutes les prisons de France. Et on nous a rassemblés. On est revenu à Saint-Paul pour quelques jours et pour partir dans le Lot-et-Garonne, à la centrale d'Est. On a fait un trajet, on nous a chargé. De Saint-Paul, on est embarqué à la gare de la Guillotière. Pas la gare Perrache, à la gare de la Guillotière, marchandises. On est monté dans les wagons et on était enchaînés deux par deux aux chevilles et aux bras. Et on est monté dans le train et on a pris la direction de la gare Perrache. On a traversé le Rhône, on a traversé la gare Perrache, on a traversé une partie de la Saône. Et puis, le train s'arrête. Alors quand on a vu qu'on passait dans cette direction, on dit « c'est bon, on part en Allemagne. Hein. » Bon, zone occupée, enfin bon... On n'a pas regardé, bonjour. Et puis, par un coup, la machine, elle est repartie dans l'autre sens. On est redescendu la vallée du Rhône.
C'était un train spécial pour vous que des prisonniers ou...
Ah oui, 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 c'était un train spécial. Hein. On était gardés par des GMR, par des gendarmes français. Et
vous étiez combien à partir, pour autant que vous le sachiez?
Quand on est arrivé à la centrale d'Est, une fois que tous ces convois sont arrivés, on était 1200.
1200.
1200. Alors, on a pris des gens, la première halte, on a pris à Valence.
Ah oui.
À Valence, le train s'arrête, et puis, bon, ben, on fait monter des gens comme nous, ficelés, aux pieds et aux mains.
C'était des wagons de marchandises, là, c'était
pas non, 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 là, c'était bien, parce qu'on était dans des wagons de voyageurs. Hein. Oui. Des voyageurs, on était 8 par wagon. Mais pour se déplacer, enchaîner pieds aux mains, hein, pour aller aux toilettes, bonjour, déjà dans... C'est pas tellement facile, hein.
Oui.
Il fallait y aller. Bon, on était jeunes, hein. Enfin, nous on était jeunes, mais enfin il y avait quand même des gens qui étaient beaucoup plus âgés que nous. Hein. Il y avait des gens qui avaient 60 ans, peut-être plus, hein, ceux-là. Ils étaient doublement marqués parce que nous on était jeunes, à part les parents, bon, les parents on sait bien que c'est pas éternel, hein, mais ceux qui avaient des enfants, femmes des enfants, bon, ça va être dur. Hein.
Et le fait de partir vers le sud comme ça, vous avez ressenti un soulagement ou...
Ah ben bien sûr, bien sûr. Mais il faut vous dire que ce train-là, par la suite, on lui a donné le nom du train de la Marseillaise. Parce que tout le long du chemin, on a broyé la Marseillaise, les chants révolutionnaires, etc. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et chaque fois que le train s'arrêtait, on accueillait les arrivants
chantant.
En chantant.
Et vos nouvelles conditions de vie dans cette centrale d'Est?
La centrale d'Est, c'était... On a voulu, quand on est arrivé, on a voulu nous faire subir le régime de centrale. C'est-à-dire que il y a des gens qui travaillent, puis d'autres qui sont là à attendre dans des grandes pièces. Il ne faut pas qu'ils causent, il ne faut pas que... Et on avait droit à une promenade en rond, gauche-droite, gauche-droite. Quand on a commencé à avoir comme ça, au bout d'un moment, on s'est arrêté. On s'est arrêté à un grand bout de combat parce que, bon, je ne s'étais jamais vu dans une centrale. Les gens, ils vont presque ce qu'on leur dit. Et là, on a eu des contacts avec. C'est toujours pareil parce qu'il y a eu cette espèce d'organisation. Il faut dire que chaque prison est arrivée avec son organisation clandestine. Chaque prison, que ce soit à Nîmes, à Valence, on était organisé. Il
fallait coordonner tout ça.
Il fallait coordonner tout ça. Et ça s'est fait, ça s'est fait. C'est imaginable. Hein. À la tête de la pyramide, il y avait un gaulliste et un communiste. Et puis, en descendant, il y avait autant de gaullistes que de communistes. Et on a fait quelque chose de fantastique parce qu'on a vécu en communauté tout le temps qu'on a été à la centrale d'Est et bien au-delà dans les camps.
Qu'est-ce qu'ils faisaient là, tous ces gaullistes? Ils étaient moins réprimés que vous,
pourtant? Non, c'est la même chose.
Enfin, la même chose. Ils avaient été arrêtés?
Ils avaient été arrêtés. Ils avaient été condamnés comme résistants. Tandis que nous n'étions pas résistants. Nous étions politiques. Et dans cette centrale d'Est, l'organisation à l'intérieur de la prison, c'était quelque chose de fantastique. Parce que c'est un peu comme en Allemagne, il y avait ce qu'on appelle... les capots en Allemagne, il y avait, dans les centrales, il y avait ce qu'on appelait le prévôt, qui avait droit, c'est lui qui dirigeait l'atelier, oui, machin, comme ça. Et on a remplacé ces gens par des résistants. Alors, c'était pas des prévôts, c'était le service d'ordre. Le service d'ordre. Voilà. Mais c'était déjà un pas dans la démarche militaire. Et dans cette prison, il y avait un commandement militaire. On faisait partie de groupes militaires, et moi je me suis trouvé dans un groupe militaire commandé par Louis Aulagne, qui était à Oulin, syndicat des produits chimiques. Il y avait aussi... Sur Pont-Baudet, il y avait aussi Aubert, Édouard Aubert, qui était syndicat du textile. J'étais souvent là. Donc ces gens-là ont organisé la centrale. Et à la tête, il y avait Ozias, un communiste, et Fuchs, c'est un gaulliste, c'est un docteur Fuchs. Il se trouvait au bout de la pyramide.
La menace sous le ciel rouge venait d'en bas des mâchoires, des écailles, des anneaux, d'une chaîne glissante et lourde. La vie était distribuée largement pour que la mort prît au sérieux le tribut qu'on lui payait sans compter. La La mort était le dieu d'amour et les vainqueurs dans un baiser s'évanouissaient sur leurs victimes. La pourriture avait du cœur. Et pourtant, sous le ciel rouge, sous les appétits de sang, sous la famine lugubre, la caverne se ferma. La terre utile effaça les tombes creusées d'avance. Les enfants n'eurent plus peur des profondeurs maternelles. Et la bêtise et la démence et la bassesse firent place à des hommes, frères des hommes, ne luttant plus contre la vie. À des hommes, frères des hommes, ne luttant plus contre la vie. À des hommes indestructibles.
Ainsi se termine cette première émission consacrée à un entretien avec Marcel Roche. Nous y avons évoqué son parcours de militant communiste et de résistant emprisonné. Vous avez successivement pu entendre les illustrations musicales suivantes. Le 1er mai, une chanson de 1896, interprétée par Marc Augeret. Le pain, la paix, la liberté, sur des paroles de Roger Dubert, une musique de Jean-Claude Simon, c'était une interprétation de Boris Knapp. Ensuite, c'est la Cobla de Barcelone qui nous interprétait l'hymne de la République espagnole, l'hymne de Riego. Boris Knapp, à nouveau, sur un texte et une musique anonyme, interprétait Clairvaux. Puis c'est Christian Auriol qui interprétait les bienfaits de l'instruction. Enfin, Claude Vinci chantait Paul et Loire, mis en musique par Yvonne Schmitt, Un feu sans tache. Je remercie chaleureusement Marcel Roche et la Nacre d'avoir bien voulu accorder à Radio Canus, en 2.2 MHz, la plus rebelle des radios, cet entretien exclusif. Nous vous proposons de le retrouver dans une future émission pour la suite de cet entretien. Bonsoir.
Quand il chante la femme, son frère et son enfant, quand un humain s'enflamme, ses pistons claquent. C'est pas de la rengaine à gaver les enfants, pas des tubes que reprennent les gros gaillards d'avant. C'est des mots qui nous disent que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attise construit l'éternité. Quand il chante la femme, son frère et son enfant, quand un humain s'enflamme, se vise en claque. Qu'une chance qu'on les vise, mais qu'on les claque. Quand le fascisme avance en 20 mètres de gants, il est temps qu'on repense et qu'on attaque. C'est pas par nostalgie du grand soir de Pépé, on brûle pas les bougies que mes mères adoraient. Mais y a des mots pour dire que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attire construit l'éternité. Quand les cons se redisent, ils noircissent le printemps. Qu'une chance qu'on les vise, mais on les claque. Thank you. gones applaudissent, que s'arrête le temps, on s'en va, on se bise, on se bise dans claque, bise dans claque. C'est des mots qui nous disent que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attise construit l'éternité. Quand il chante la femme, son frère et son enfant, quand un humain s'enflamme, c'est bistan claque. Quand les cons se redisent qu'ils noircissent le printemps, qu'une chance qu'on les vise, mais qu'on les claque. Quand le fascisme avance sans même être de gants, il est temps qu'on repense et qu'on attaque. C'est pas par nostalgie du grand soir de Pépé, on brûle pas les bougies que mes mères adoraient. Mais y'a des mots pour dire que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attire construit l'éternité. Quand les cons se redisent, noircissent le printemps, qu'une chance qu'on les bise, mais on les claque.